Radio Kapi.
À l'écoute de Radio Kapi, il est 12h03 à Kinshasa. Voici le journal. La dynamique des peuples autochtones tire la sonnette d'alarme sur les silences des autorités une semaine après le massacre de 46 pygmées au village de Massini en Ituri. La structure plaide pour une assistance en faveur des enfants et des femmes blessés lors de cette attaque. Dans le Haut-Ouélé, près de 120 véhicules qui étaient bloqués sur le pont Zoro depuis deux semaines reprennent le trafic après l'ouverture de la route. Ce tronçon d'importance économique indéniable relie le territoire de Faradji à celui de Ouattia. Notre invité, c'est le commissaire général adjoint chargé de la police administrative en RDC, le général Philemon Paciencia, appelle les miliciens de l'Ituri à déposer les armes. Il parle aussi des mesures pour protéger les civils en proie à l'insécurité. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonjour au micro. Pascal Massirika, Jean-Noël Mokondo est sur les manettes. La dynamique des peuples autochtones condamne le silence des autorités après le massacre qui a coûté la vie à 46 pygmées le 14 janvier dernier dans le village de Massini en Ituri. Lors d'une conférence de presse animée hier mardi ici à Kinshasa, le coordonnateur adjoint de cette structure a demandé une assistance rapide en faveur des enfants et des femmes blessés lors de cette attaque. Il plaide aussi pour la protection des peuples autochtones dans cette partie du pays. Les propos de Patrick Saïdi ont été recueillis par Tati Mapougou.
Jusque-là, on a vu l'inaction du côté des autorités au niveau national, mais aussi des côtés des autorités au niveau provincial, dans le cadre de la décentralisation. Mais au-delà de ça, c'était aussi l'occasion de demander aux autorités, une semaine après, d'initier des actions urgentes, notamment des actions humanitaires, parce que nous parlons de plusieurs familles rescapées qui ont fui effectivement ces campements qui a subi cette attaque. Donc plus de 120 ménages qui sont aujourd'hui éparpillés dans le village voisin. Nous parlons aussi des rescapés. Donc il y a des dames qui ont reçu des balles, il y a des enfants qui ont été blessés par la machette. Jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore reçu les premiers soins. Donc la première des choses, il faut que l'État s'organise sur cet accès-là. Mais aussi, il y a un élément plus important, c'est l'élément sécuritaire. Parce que nous sommes dans des zones enclavées où il y a plusieurs campements des pygmées et nous estimons que ces attaques ont été organisées. Ce sont des attaques ciblées. On voulait effectivement s'attaquer aux peuples autochtones pygmées et nous craignons que les autres campements puissent subir le même sort. Donc il est vraiment urgent que l'État puisse définir le mesure sécuritaire, le mesure de protection pour venir en aide effectivement à se laisser pour compte.
Les cas de criminalité sont de plus en plus nombreux depuis l'instauration du couvre-feu. Ce constat est celui du commissaire provincial de la police lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi à son cabinet de travail à Lubumbashi. Pour ce dernier, cette criminalité est aussi bien le fait des agents de sécurité considérés comme des brebis égarés que des civils. Les détails avec le commissaire provincial de la police nationale du Haut-Katanga, Louis Segon Karawa, au micro de Jean-Gandou.
C'est un constat que nous tous nous avions fait. Souvent, les gens croient que pendant le couvre-feu, tout le monde est chez lui. Et comme ce sont les militaires et policiers qui sont sur terrain, ce sont eux qui s'adonnent à ces actes de criminalité. Tout à l'heure à la parade, je l'ai dit qu'effectivement, dans nos rangs, nous pouvons avoir des brebis égarées. Et ce sont ces gens-là qui insécurisent aussi la population la nuit. Ça, c'est de côté des forces de sécurité, policiers, militaires, incontrôlés. Puisque nous sommes du même corps, ils connaissent un peu comment nous fonctionnons et nous ne sommes pas déployés partout. Ils peuvent profiter aussi des fois de ces vides-là pour aller voler, insécuriser la population. Dans nos quartiers, il y a aussi la délinquance d'appropriation et des violences. Ces gens-là, et ce sont eux qui font plus de mal. Et pendant cette période, nous avons remarqué que c'est plus les jeunes délinquants qui s'adonnent à ces vols par effraction. Les enquêtes prouvent effectivement que les hommes en uniforme, mais il y a plus les délinquants qui causent beaucoup de problèmes à la cité, à nos populations.
Pendant ces temps, à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, une policière présumée voleuse a été victime d'une vindicte populaire la nuit dernière au quartier d'Ikongaï, en commune de Lukonga. Selon le commissariat urbain de la police nationale, la victime est soignée dans un hôpital de la place. La police invite la population à ne pas se livrer à pareils actes qui sont condamnés par les lois du pays. Explication avec vous, Blaise Nongalamayanda.
Ces drames s'est produit aux environs de 22 heures au quartier d'Ikongaï, affirmé de sources du commissariat urbain de la police. La victime, policière du commissariat de Kananga, a été copieusement tabassée par la population en colère. Elle est grièvement blessée et elle s'en est sortie avec un bras cassé. La population l'accuse d'avoir pris part il y a des jours au cambriolage des deux domiciles de ces quartiers. Des sources concordantes renseignent que les familles visitées affirment avoir vu la policière accompagnée des autres bandits armés lors de ces incursions nocturnes. Pour le moment, la victime est admise à un établissement hospitalier de la place pour des soins appropriés, indiquent des sources du commissariat urbain. Les mêmes sources font également savoir que son état est critique après avoir perdu beaucoup de sang. La situation de cette présumée voleur embarrasse la police qui tout de même appelle la population à se méfier de la justice populaire. Pour rappel, le week-end dernier, un autre policier a été retrouvé dans la brousse entre la vie et la mort et son arme est emportée par des individus non identifiés au village Biyenge, en territoire d'Ilebo, à 450 km. De Chikapa, de Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Nord Kivu où les activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce mercredi matin dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Pour cause, un appel à la marche pacifique pour réclamer la reprise des cours. Les manifestants ont barricadé certains axes de la voirie. C'est suite à l'appel de la Force syndicale nationale Fédération du Nord Kivu. Le point de la situation avec vous, Mathieu Ilunga Chamboui.
Alors que quelques élèves et étudiants s'est regroupé à l'esplanade de l'ISC autour de la Fossinate pour lancer la marche pacifique vers le gouvernorat, d'autres étudiants, élèves et autres jeunes barricadaient certains axes routiers avec des pierres et des cailloux. C'est le cas de tronçons l'Unigoma, l'axe Katindo sur la route Sake et vers Madiengo. Pour le président de la coordination fédérale Nord Kivu de la Fossinate, la fermeture des écoles est plutôt politique et non sanitaire. Celui-ci exige ainsi la reprise des activités académiques et scolaires sans délai. Innocent Baal Chamavou.
L'ultime recommandation d'aujourd'hui, c'est la réouverture des activités scolaires et académiques sur toute l'étendue du territoire national. Les grandes autorités sont en train de se réunir pour leurs fins politiques et ils ne respectent pas les 10 personnes qui ont été précisées pour la loi. Mais donc, l'ultime recommandation d'aujourd'hui, c'est la réouverture des activités scolaires et académiques sur toute l'étendue du territoire national.
La marche de la Fossinate devrait avoir comme point de chute le gouvernorat pour déposer un mémorandum sur cette revendication. Mais pendant ce temps, la police nationale congolaise a dû utiliser la force et les gaz lacrymogènes au niveau de l'université de Goma, à la station Mutinga sur l'axe Madiengo et au niveau de Afiabora sur la route nationale Goma-Sake pour dégager les barricades de pierre sur la chaussée. Goma, Mathieu Lunga Chambo Manatibi, Radio Okapi.
Les propos tenus le 16 janvier dernier par le pasteur Daniel Ngoï Mulunda n'engagent pas le Katanga. C'est en substance la position de l'Union nationale des fédéralistes du Congo rendue publique ce mercredi à Lubumbashi par Gabriel Kyungwa Kumwanza. Ce dernier réagit ainsi aux déclarations tenues par l'ancien président de la CENI dimanche dernier dans son église et qui seraient à la base de son arrestation. Pour Gabriel Kyungwa Kumwanza, le Congolais est libre de s'installer où il veut selon les prescrits de la Constitution. Il appelle les uns et les autres à vivre en harmonie et à éviter toute velléité séparatiste. Il s'est confié à Jean Gandou.
Nous avons suivi le serment là-dessus. Il n'y avait rien de religieux. C'est un meeting politique. Et ça n'engage que lui, ça n'engage pas le Katanga. Nous disons, les Congolais, la Constitution est claire et très claire. Le Congolais est chez lui, partout au Congo, la Russie. Donc ça se passe de tout commentaire. Deuxièmement, la propension de vouloir malignement cacher les FCC et mettre les Katanga devant. Qu'ils aient le courage, je vous parle ça en tant qu'une affecte. Lorsqu'ils veulent parler politique, qu'ils engagent leur formation ou plus les plateformes politiques. Pas dit, nous, Katanga, non, non. Nous avons voulu qu'on y mette fin, qu'on n'embarque pas les Katangais. Vous voulez monter la population pour rien. Il n'y aura pas de guerre tribale au Katanga. Rien du tout.
Et puis les ONG de droits de l'homme Azado et Akaj dénoncent ce qu'elles qualifient de violence et brutalité ayant accompagné l'arrestation du pasteur Ngoï Mulunda, président honoraire de la CENI à Lubumbashi, tout en désapprouvant les propos qu'ils jugent de séparatistes et qui incitent à la haine tribale tenue par le notable Katangé. Le président de l'Azado estime que Daniel Ngoï Mulunda jouit encore de la présomption d'innocence, ce qui pousse le président de l'Akaj à plaider pour un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Michel Kifindangoy.
Le président de l'Azado juge inacceptable dans un état de droit que l'arrestation du pasteur Daniel Ngoï Mulunda soit émaillée d'une telle violence. Jean-Claude Katende.
Le pasteur Ngoï Mulunda a été interpellé avec beaucoup de brutalité et beaucoup de dégâts sur sa maison, et qui n'est pas en fait conforme aux lois de la République. Même si à notre niveau, nous avons considéré que les propos qu'il a tenus sont de nature à attiser la haine tribale et le séparatisme.
Le président de la CAJ plaide pour le respect des droits de la défense durant ce procès en flagrance, déjà en cours devant le tribunal de paix de Lubumbashi. Georges Kapiamba.
Le fait poursuivre pour incitation à la haine tribale, la propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Nous insistons sur le fait que le droit à la défense soit respecté suivant les principes d'un procès juste et équitable.
L'Azado et la VSV exigent des poursuites judiciaires contre les agents de l'ordre ayant détruit le domicile du pasteur Daniel Ngoï Mulunda.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. Revenons un instant au Nord Kivu où les activités restaient paralysées depuis deux jours au tribunal des grandes instances de Goma. Plus de 40 agents manifestent leur mécontentement suite à l'inaction du gouvernement qui tarde, selon eux, à régulariser leur situation socio-professionnelle depuis plus de 15 ans. Ils affirment avoir travaillé sans être mécanisés ni toucher leur salaire. Ils regrettent le fait que les uns parmi eux meurent dans la misère. Des précisions avec le vice-président du syndicat des agents de l'État affectés au tribunal des grandes instances de Goma, Luc Muhunjuka Ntamirabazi, s'est confié à Gabriel Wamenya. Nous reviendrons sur cette information. Notez que les grévistes réclament aussi la libération des deux greffiers arrêtés mardi dernier sur instruction du premier président de la cour d'appel pour faux en écriture. Le greffier divisionnaire du dit tribunal, Raymond Mbwende, craint la persistance de cette situation avec toutes les conséquences sur le bon fonctionnement de cette juridiction. Économie à présent. Dans la province du Haut-Uele, près de 120 véhicules qui étaient bloqués de part et d'autre du pont Zoro depuis deux semaines reprennent le trafic après l'ouverture de la route hier mardi après-midi par le ministre provincial des Travaux publics, Robert Mandana. L'administrateur du territoire de Faradje et celui de Ouatia ont assisté à cette cérémonie puisque cet ouvrage relie leurs entités respectives. Quelle est l'importance économique de cet axe routier? La réponse dans ce reportage de Jacques Mokongolé.
Le pont Zoro, lancé sur la rivière portant le même nom, sur la nationale numéro 26, relie trois territoires à savoir Faradje, Ouatsa et Rungu. Cet accès routier est d'une importance capitale pour les populations de ces trois entités. En effet, les produits divers de première nécessité et autres produits manufacturés en provenance de l'Ouganda et de l'est du pays passent par cette voie routière, notamment du ciment, du sel, du sucre, du savon, ainsi que des tissus pour hommes et femmes. Le bois destiné à l'exportation ou à la construction localement emprunte également cette même voie. Le député provincial Jean-Faustin Tassilé salue cette intervention du gouvernement provincial, bien que cette route soit de la responsabilité du gouvernement central. Il plaide aussi pour la réhabilitation d'autres accès routiers.
Aujourd'hui que les affaires économiques les prennent normalement. Parce qu'un nombre important de véhicules qui étaient bloqués au niveau de ces ponts-là sont libérés aujourd'hui ce matin. C'est une grande joie et que nous recommandons encore une réhabilitation des routes.
Le passage des véhicules sur ces ponts va permettre au marché des trois entités suscitées d'être inondé en produits divers à la grande satisfaction des populations locales. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Et puis au sud Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidjekassi a donné hier mardi le coup d'envoi sur l'axe Amsar, non loin de Moudaka, en territoire de Kabaré. Le coup d'envoi des travaux de la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. C'est dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans les grands lacs dénommé Picagel. Objectif affiché, réhabiliter 324 km de routes sur la direction de l'UNOPSAN. Radio Kapi Bukavu. Rachel Kessembangou.
Ces travaux sur l'axe routier Amsar, Birava, Mushwe Katana permettront de relier les zones de production aux principaux marchés. Cela en vue d'accroître la productivité agricole et la commercialisation dans les zones ciblées. La bonne mise en œuvre de ce projet participera au développement du secteur agricole au sud Kivu. Le coordonnateur provincial de Picagel, Jean Damas Bouloubou.
La réhabilitation des puits Serira permettra de désenclaver le passé de production ou permettre aux producteurs agricoles d'évacuer les produits vers les centres des consommation et améliorer ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du site Kivu. Nous voudrions ici rassurer les entrepreneurs du soutien du projet et surtout du gouvernement provincial pour l'accomplissement de leur mission.
Le gouverneur du Sud Kivu qui a lancé ces travaux invite les autorités locales ainsi que la population à s'approprier ces travaux. Théo Ngwabije Kassi.
J'adresse ma gratitude au gouvernement de la République qui avait à son temps négocié et signé l'accord de financement avec la Banque mondiale qui a donné la naissance du projet Picagel dans le but de développer les chaînes de valeur agricoles et apporter l'appui au secteur agro-industriel.
Ces travaux seront dirigés par l'UNOPS qui a signé avec 3 entreprises pour exécution dans un délai de 4 mois. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Joe Biden et Kamala Harris seront investis ce mercredi à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis d'Amérique. La cérémonie d'investiture va se dérouler dans des conditions exceptionnelles du fait de la pandémie du coronavirus et des craintes des manifestations des violences des plus virulents partisans du président sortant Donald Trump. Le variant britannique du coronavirus continue de se répandre à travers le monde et il était présent la semaine dernière dans 60 pays et territoires, selon un communiqué publié ce mercredi matin par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux. Cette nouvelle est publiée dans la revue épidémiologique hebdomadaire citée par l'agence France Presse AFP.
L'invité.
Notre invité, c'est le commissaire général adjoint en charge de la police administrative en RDC. Le général Philemon Patience-Yave appelle les miliciens de l'Ituri à déposer les armes. Au cours d'un point de presse animé hier mardi à Bunia, il a parlé également des mesures prises pour protéger les civils dans ce contexte d'insécurité dû à la présence des groupes armés dans la périphérie de Bunia. Il s'entretient avec Charlie Omba.
Général Philemon Patience-Yave, bonjour. Vous êtes à Ituri. Qu'est-ce qui justifie votre présence dans cette province?
Le commissaire divisionnaire Philemon Patience-Yave est dans Ituri, particulièrement à Bunia. C'est sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. On fait de descendre dans Ituri, encourager les autorités politico-administratives, les forces de défense et de sécurité, je cite l'armée et la police, enfin de continuer à pacifier l'Est de la République, particulièrement la province de l'Ituri. Il est de mon devoir aussi, le devoir de la police nationale, qui accompagne la sécurité des agglomérations libérées par les forces armées dans cette province, de suivre de près le comportement de cette police à côté de l'armée. Voilà les raisons d'être du commissaire divisionnaire Philemon dans cette province.
Aujourd'hui, la ville de Bunia est menacée par les miliciens. Que fait la police?
Madame, c'est visible. La police est en train de travailler nuit et jour à côté de l'armée. Vous voyez, nous avons une police appelée communément la Légion nationale d'intervention dans cette province sous les ordres du commissaire provincial. Ils sont en train d'épauler les forces armées. Nous avons la police territoriale dirigé de main de maître par le commissaire provincial de divisionnaire adjoint Abdallah Sabiti, en train toujours d'épauler les forces armées. Partout où se trouve aujourd'hui l'armée dans la ville de Bunia, à côté vous verrez la police.
la société civile acquise les éléments de la police, des tracasseries et de tirer sur les civils. Qu'est-ce que vous faites pour mettre la discipline au sein de la police?
Madame, le préfet n'est pas de ce monde. Bien sûr, la police est en train d'abattre un travail d'équitant. Mais il y a ceux-là qui se comportent mal, raison pour laquelle il y a des commandants à la tête de cette police nationale qui sont en train de sanctionner au jour le jour les policiers qui se comportent mal. Comme exemple, allez dans la prison, vous trouverez les policiers qui se comportent très mal. C'est notre travail. Nous avons juré devant les drapeaux congolais de mourir pour ce pays. Et nous allons mourir pour ce pays pour que notre population reste libre. Deux, pour les policiers ou les militaires qui sont attaqués par les milices, monsieur, laissez-moi vous le dire que ces policiers ou ces militaires, ils se défendent très bien. S'ils tombent, ils tombent pour la nation. C'est un devoir. Mais je vous dis, chers amis, que ce pays que nous sommes en train de sécuriser, cette population que nous sommes en train de protéger aujourd'hui, demain nous donnera raison. Voilà pourquoi je m'empresse de dire à nos amis, toutes les milices qui sont aux environs de cette ville de Bounia, de déposer les armes. Ils sont nos frères. Ils sont des Congolais comme nous. Nous devons déposer les armes et qu'ensemble, avec eux, nous pensons au développement de la province de l'Ituri. Un message simple, nous voulons dire à notre population de collaborer sincèrement avec les forces de l'ordre, avec les forces de défense, pour l'avenir de notre province. Il ne reste qu'à dire à notre population de tourner la page, d'oublier, de prêter main forte aux milices qui nous tuent et de travailler en collaboration avec l'armée et la police.
Vous venez d'appeler la population à collaborer avec la police. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour renouer la confiance entre la population de l'Ituri et les éléments de la police?
Les mécanismes sont là. Le commissaire provincial est là. Les bureaux sont ouverts. Les portes sont ouvertes. Que la population vienne à la police, vienne à l'armée, déposer donc les informations à leur possession et nous allons analyser ces informations.
Général Patience Yave Philemon, merci.
C'était l'invité de Radio Capi ce midi. Il s'agit du commissaire général adjoint chargé de la police administrative de la RDC, le général Philemon Patience Yave, a accordé une interview à Radio Capi. C'était hier au micro de Charlie Omba et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Babel Mpongo Massimango qui a coordonné ce journal sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.